RCF.
Dans l'émission Sinécure de ce samedi, de ce week-end, je reçois un jeune acteur, Carl Verwier. Son nom ne vous dira probablement rien. Carl, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment vous ai-je rencontré? Parce que c'est un itinéraire un peu surprenant.
Oui.
C'est la conjonction de deux métiers, de ma fonction pastorale de prêtre en paroisse, mais aussi de journaliste pour la radio RCF. Et j'ai donc célébré les funérailles de votre grand-mère il y a quelques semaines.
Oui, exactement.
Et votre maman m'a dit, mon fils doit venir de Paris et il est acteur. Je dis, acteur, ça m'intéresse. Oui, mais acteur de théâtre. Mais pas que. Et donc, c'est venu, je me suis dit, tiens, mais... Et puis, en se parlant après les funérailles, on s'est rendu compte qu'on avait un ami commun, Constant Carbonel, que des auditeurs connaissent, on l'a déjà reçu ici à la radio, et qu'on était même contact sur Facebook. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant, en vous entendant et en entendant parler aussi de votre rapport théâtre et cinéma, mais aussi de l'improvisation, chose qui me fascine. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien d'en parler à nos auditeurs. Alors, d'où vous est venue l'idée de vous lancer dans le fait d'être acteur? Ne choisissons pas encore théâtre ou cinéma, mais le fait d'être acteur.
Oui, ça a été un peu un long parcours, en fait. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'ai vraiment une formation, on pourrait dire, classique, hein, vraiment. J'ai suivi une formation qui était plutôt scientifique quand j'étais à l'école, et puis j'ai même intégré la faculté de polytechnique ici à l'ULB, etc. Et en fait, c'est en me cherchant vraiment dans le cadre de mes études, en me rendant bien compte que je n'étais pas au bon endroit, et aussi par ma curiosité de manière générale pour les arts, parce que je dessine énormément, j'allais beaucoup au musée, etc., que j'ai commencé, en fait, en décrochant un peu de mes études, à me raccrocher davantage au cinéma, aux films, aux séries, un peu au théâtre, et je me suis dit, tiens, ça a l'air génial, j'aimerais bien au moins y goûter. Et c'est sur les bons conseils de ma mère qui, un jour, voyant que je recommençais encore mes recherches universitaires, qui m'a dit, mais tu sais, il y a une école à Bruxelles qui s'appelle, on peut la citer, je pense, qui s'appelle le Cours Florent. Elle m'a dit...
Oui, il n'y a pas de problème à citer le Cours
Florent. Voilà, ok, pas de souci. Parce que je suis vraiment issu de la formation de là-bas, quoi. Et ma mère m'a dit, voilà, ils font des stages d'accès, vas-y, tu vois, et au moins tu seras fixé sur tes envies, parce que sinon tu pourras jamais vraiment savoir ce que ça donne pour toi, quoi. Donc j'ai fait le stage d'accès, et ça a été vraiment un moment un peu de révélation, vraiment... Parce qu'on travaille énormément dans le théâtre, c'est répéter des textes, c'est vraiment se renseigner sur un auteur, énormément lire, travailler sur soi-même, sur son
habiter
jeu.
Habiter son corps aussi.
Voilà, oui, qu'est-ce qu'on fait de son corps au plateau, comment se débarrasser aussi du stress, de gestes parasites qu'on peut avoir, comment bien articuler ou autre. Et en fait, cette semaine-là était très très intense, j'ai vraiment pris un pied total à le faire, je travaillais très tard le soir mais sans avoir c'était pas une plaie, quoi. C'était vraiment un grand, grand plaisir. Et je suis sorti cette semaine et j'ai dit à ma famille, mais voilà, j'ai vraiment envie de m'y jeter. Et donc, j'y suis allé. J'ai fait le cycle de 3 ans et j'ai pas raccroché depuis lors, quoi. Vraiment, les choses ont évolué de fil en aiguille, mais j'ai vraiment, vraiment pris un pied total à faire ça.
Et être acteur, c'est aussi découvrir que mon personnage n'est pas moi.
Exactement.
Il peut l'être, mais il n'est pas moi en principe.
Alors, il y a plein d'écoles là-dessus. Il y en a qui sont vraiment pour mélanger, on va dire, la personne et le rôle. Il y en a qui veulent vraiment faire une distinction. Moi, je suis plus de l'avis de dire que la personne qui va être au plateau de théâtre ou sur le plateau de cinéma, ça reste nous. Donc évidemment, on se travestit, on change notre manière d'être, notre façon de parler, notre corporalité. Mais in fine, ça reste nous, donc il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que parfois, je rigole un peu quand je vois un peu certains amis qui sont un peu plus de la méthode acteur studio, qui vont se dire « il faut que j'expérimente telle ou telle chose de manière très très intense pour comprendre ce que c'est ». Moi, je pense que les considérer, l'étudier de manière peut-être plus sur papier, est déjà une bonne chose de se renseigner ou autre. Et donc, moi, je n'ai pas cette part des choses-là. J'aime bien partir de moi-même et puis me déconstruire pour créer quelque chose de neuf, en tout cas. Voilà.
Il y a des acteurs dans l'acteur studio qui restent leur personnage durant tout le tournage d'un film.
Oui, voilà.
On en connaît quelques-uns.
C'est clair. Bah, on peut penser à Daniel Day-Lewis, qui est très connu pour cette méthodologie-là. Après, je veux dire... Quand c'est un film d'époque, surtout, moi, ça me fait un peu rire, parce que, je veux dire, on sait qu'on n'est pas 2 siècles auparavant, il y a la technologie qui est là, on leur dit quand même action ou couper, et donc entre les deux, ok, ils sont dans leur personnage, et ça les aide, hein, c'est vraiment une forme d'introspection, c'est une forme c'est presque un truc de moine zen, quoi. Il y a un truc où se mettre dans un état d'esprit de jeu, c'est quand même parfois complexe, parce qu'il y a plein de parasites sur un plateau, ou même au théâtre. Et donc vraiment, je pense que rester effectivement dans leur personnage les aide à être plus concrets, en tout cas, une fois que l'action a commencé, quoi.
Dans le théâtre, il y a quand même une expérience d'immédiateté. On ne sait pas comme au cinéma refaire la prise, donc il faut y aller à fond.
C'est
clair. C'est quelque chose d'assez passionnant aussi.
Oui, c'est vrai. C'est peut-être la chose la plus gratifiante, finalement. J'ai pas envie de faire une part des choses entre le cinéma et le théâtre, mais c'est vrai qu'au théâtre, d'être là, au présent, et de devoir jouer avec l'impossibilité de ce qui peut nous arriver, parce que
on peut ne pas être en forme non plus.
Voilà, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on est comme une petite puce au plateau et on en fait trop, il y a des jours où il arrive qu'une musique ne parte pas, qu'une lumière ne marche pas, que quelqu'un dans le public nous interpelle ou qu'il y a un bruit parasite ou autre.
Ou pas la bonne réplique du partenaire.
Exactement, moi j'ai eu des situations où j'ai déjà malmené mes partenaires au plateau aussi, hein, faut pas... mais j'ai déjà eu des partenaires qui sautent complètement une scène. Et on doit faire avec, on doit tout faire pour que le public ne se rende pas compte ou essayer de rattraper les meubles plus tard. Donc évidemment, oui, il y a ce truc de très très immédiat au théâtre qui est très plaisant, parce que aussi dans le côté immédiat, il y a aussi le fait que le public réagit immédiatement. Donc ça permet aussi de jauger l'engouement de ce qu'on est en train de créer avec eux, parce que c'est une relation un peu dialoguée. Il y a notre partenaire, mais il y a le public. On parle souvent d'un triangle. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus positif, plus rafraîchissant, ça permet vraiment de nous congratuler d'une certaine manière du bon travail qu'on aurait pu faire ou pas. Voilà.
Et vous avez fait des passerelles également avec le cinéma, puisque vous quittez les planches de temps en temps pour faire un peu de publicité, mais aussi télévision, vous jouez dans des courts-métrages, un peu de tout.
Oui, bah là en ce moment, là, je suis sur une série qui va sortir cette semaine à la télé sur TF1 par exemple.
On vous a déjà vu dans Demain nous appartient.
Voilà, c'est ça que ça va arriver cette semaine en fait. Oui. C'est la découverte de mon personnage dans Demain nous appartient cette semaine. Et j'ai fait une autre série sur Arte qui était...
Nicolas Barrault, le personnage.
Voilà, le personnage dans Demain nous appartient, c'est l'infirmier Nicolas Barrault qui va arriver. Oui, effectivement, en fait, je pense qu'aujourd'hui, surtout avec les plateformes de streaming autres, et la demande qui est grandissante aussi, en tant que comédien, on peut se spécialiser, évidemment. On peut faire que du théâtre, de l'impro, de la danse, autre. Mais de mélanger, pas brouiller les pistes, mais vraiment d'avoir plusieurs cordes à son arc, c'est quelque chose de très très utile aujourd'hui. Et ça permet aussi, nous, de pas non plus être tout le temps dans la même mécanique. Ça permet... C'est vrai que le jeu au cinéma n'est pas le même que le jeu au théâtre. On a la même méthodologie de préparation, mais une fois qu'on est sur un plateau de cinéma, on ne retrouve pas la même immédiateté, parce qu'on a plein de prises possibles.
Et on peut recommencer plusieurs fois, et on ne doit pas mémoriser 2 heures de texte.
Non, après, on peut avoir des très longues tirades où un réalisateur va nous demander de faire un plan séquence. Donc ça peut être long, mais parfois. Mais c'est vrai qu'en général, c'est des scènes assez courtes, entrecoupées de plans. Mmh. Et du coup, ça nous permet de le rejouer, de tenter différentes versions d'une scène. Donc c'est plus un travail de recherche au moment où on est au plateau de cinéma, tandis qu'au théâtre, c'est le moment du présent, de l'immédiateté, comme on se le disait apparemment.
En préparant l'interview avec vous, je faisais référence aux acteurs britanniques qui, bien souvent, ont des passerelles entre le théâtre et le cinéma, tout comme les acteurs flamands. Et je pense que vous avez joué en flamand, me semble-t-il,
un petit peu. J'ai la chance, dans le cadre de ma formation, on avait un atelier de théâtre en néerlandais. Voilà. Et c'était génial, parce que de travailler une autre langue au théâtre, en tout cas au plateau, c'est une autre façon de s'exprimer, c'est une autre façon de jouer, une autre façon d'articuler un texte. Et donc il y a un vrai travail de fond, parce que je suis pas parfaitement bilingue à la base, et puis de toute façon un texte ça s'apprend, donc je pouvais le dire parfaitement au final.
Comme on chante à l'opéra une langue qu'on ne
connaît pas. Voilà, exactement. Et j'ai trouvé ça vraiment, ça a été un peu une expérience assez révélatrice, parce que c'est grâce à cette pièce que nous avons jouée en flamand qui s'appelait De Jossen de Tom Lanois, qui est un auteur belge assez réputé, c'est grâce à cette pièce qui est très loufoque, très barrée, si on veut dire, que j'ai vraiment pris un vrai amusement au plateau, que j'étais encore, on va dire, empêtré dans ma formation à ce moment-là, j'étais qu'élève de première année. Et c'est vraiment avec cette pièce-là que j'ai pris un plaisir aussi à regarder mes camarades de jeu qui étaient plus âgés dans leur formation, plus avancés, que je me suis vraiment révélé et que j'ai pu travailler certaines choses qui n'allaient pas dans mon jeu à l'époque, savoir vraiment d'articulation ou d'autres. Donc oui, de jouer dans plusieurs langues, ça ouvre les pistes. Mmh. Et pour revenir sur les acteurs anglais, moi je les adore. Je pense effectivement, ils font partie de la génération on va pas aller non plus créer des cadres, mais ils font partie de la génération d'acteurs les plus polyvalents qui existent encore aujourd'hui. De voir des acteurs capables de jouer du Shakespeare comme si c'était leur langue de tous les jours, leur langue à la maison, et puis de voir qu'ils arrivent à jouer d'autres registres, même d'autres accents, pour jouer dans des films américains ou autres, je trouve ça génialissime. Moi.
Et justement, parce qu'on est parti sur les acteurs flamands, mais c'était aussi important parce qu'eux ont aussi des passerelles entre ce qu'on appelle le vrai cinéma et la télévision. Oui. Et parfois, ils appellent le public dans les salles de cinéma parce qu'on les a rencontrés dans des séries télévisées, notamment en Flandre, ce qui n'existe pratiquement pas chez nous en Wallonie, ni à Bruxelles.
C'est plus rare, oui. C'est vrai que pour les francophones belges, on est très axé sur les productions françaises aussi. Donc il y a vraiment un parallèle qui se fait avec la France, par le fait qu'on parle la même langue, tout simplement. Là où effectivement, en Flandre, qui est ils proposent énormément de choses, ils sont géniaux, vraiment, moi j'adore. Effectivement, il y a beaucoup de séries qui sont très très regardées, très, très en vogue, et ça appelle effectivement le public vers le cinéma, qui est un cinéma d'auteur assez, assez important. Moi je pense au film Girl qui était sorti à Cannes, oui, il y a quelques années.
Lucas Donne qui présente d'ailleurs un film à Cannes
cette année,
puisque durant ce week-end passe justement, on est en plein festival de Cannes. Mm-hmm. Mais il y a aussi, vous avez une formation pour le cinéma ou c'est votre formation théâtrale vous a suffi?
Alors, on a, dans le cadre de notre formation, on a eu quand même droit à des intervenants, on va dire, plus cinéma. C'est-à-dire qu'on a fait du travail... Déjà, il y a tout un exercice aussi en amont des plateaux, hein, c'est l'exercice du casting, donc le fait de passer une audition. C'est un univers à part, parce que c'est un peu comme passer un entretien d'embauche, ce n'est pas très naturel comme situation. Oui. Et on est là un peu pour se vendre ou essayer de faire du mieux qu'on peut. Donc on a eu des formations ça, où ça se passe devant une caméra, on est filmé quand on fait cet exercice-là, donc j'ai été formé à ça. Et puis effectivement j'ai eu droit à des intervenants qui sont super. Je pense à Carole Franck, qui est une comédienne, une immense comédienne française, très connue pour ses seconds rôles. Elle a travaillé avec Abdelatif Kechiche, ou dans le Nom des gens, qui est une super comédie. Elle nous a vraiment rodé à l'exercice, justement, face caméra. Après, ma formation était clairement théâtrale, et je sais que le cours Florent a un cursus cinéma, que je n'ai pas suivi. Mais le cinéma, il y a ce truc où il n'y a rien à faire, on apprend sur le tas, c'est comme un menuisier, il faut jouer avec ses outils, il faut s'amuser, quoi.
Vous avez tourné dans des courts-métrages? Est-ce oui. que vous avez tourné des courts-métrages?
Alors,
scolaire peut-être.
Oui, dans un cadre scolaire, on s'est souvent amusé, on avait souvent accès à des cartes blanches, donc on avait vraiment on nous laissait un temps d'expression, ça pouvait être filmé, ça pouvait être théâtral, et on a décidé avec un très bon ami à moi qui s'appelle Martin Bouchot, que je salue, on a décidé de réaliser un court-métrage qui s'appelait Groom Service. Bon, ça paye pas de mine techniquement parlant.
C'est assez amusant, je trouve.
Voilà, c'est vraiment, en fait, pour nous, c'était un exercice. C'est-à-dire qu'on a fait appel à un autre ami qui est improvisateur, et on l'a dit, voilà, on a cette idée d'un groom dans un hôtel qui est réceptionniste, il s'ennuie comme pas possible, et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui lui arriverait si enfin arriver un client en pleine nuit, alors qu'il n'a plus du tout l'habitude de ça. Et du coup, il fait de l'excès de zèle, quoi. Et jusqu'à chasser le client de l'hôtel qui n'en peut plus de se voir aider tout le temps. Bon, techniquement, le film n'est pas incroyable, mais on a quand même été reconnu pour l'originalité dans le scénario et aussi le jeu de notre comédien qui nous a quand même, ça faut le dire, pour la performance, il a improvisé pendant 2h30, je pense, voire 3h, face caméra, dans un plan fixe, et on a gardé ce qu'on appelle, on va faire un jump cut, on a gardé que les moments qui nous intéressaient.
On va bientôt arriver à l'improvisation, mais quand même, oui. Moi j'avais été fasciné par Silence Plateau, c'est un exercice
oui,
de style.
Oui, oui, bien sûr, j'avais oublié d'en parler. Mais c'est... Alors ça, c'est vraiment un exercice de style aussi, ça se fait un peu partout en Europe, même dans, je pense à l'international, enfin dans d'autres continents, c'est ce qu'on appelle les 48 heures, il y a même l'exercice des 24 heures. Les 48 heures, c'est le but du jeu, ça dure 48 heures, c'est de réaliser, c'est d'écrire, de jouer, de monter un film en 48 heures, un court-métrage, hein, bien évidemment. Et du coup, on reçoit quelques règles qu'on nous impose, le fait de placer un personnage, un certain prénom, un objet, une phrase de texte, autre, un décor, on nous impose ça en amont, et on a 48 heures pour les caser dans notre court-métrage, qui va durer 6 à 10 minutes, et puis on doit le monter, l'envoyer avant la fin des 48 heures. Donc c'est un exercice où on ne dort pas, mais c'est une expérience de dingue, voilà.
Alors maintenant, c'est une chose qui me fascine, c'est le théâtre. On pourrait parler pendant des heures de votre métier, mais parce qu'on vous sent passionné, je pense que les auditeurs doivent s'en rendre compte. Mais il y a des ligues d'improvisation et tout ça, on en entend oui. parler de temps en temps, on voit un extrait à la télévision, mais ça correspond à une codification bien précise, parce qu'à la fois on improvise, mais un de mes maîtres, quand j'ai fait une formation, me disait pour improviser, il faut avoir des provisions.
Oui, ok. Alors c'est vrai que bon, l'improvisation est très diverse, parce qu'il en existe diverses formes et on peut l'utiliser de plein de façons. Ce qui est très très connu et populaire à l'international, c'est la ligue. Donc c'est le fait de... c'est ce qu'il y a le plus populaire, c'est d'aller voir des matchs d'improvisation, deux équipes vont s'affronter, bon le terme n'est pas bon en fait, on joue vraiment ensemble, sur des impros courtes, donc on va leur imposer une thématique, un texte, on va leur imposer une thématique et ils vont devoir jouer ensemble, créer une histoire sur une durée courte, totalement improvisé, avec quelques contraintes parfois. Ça, c'est ce qu'il y a de plus populaire, ça a été inventé au Québec, c'est ultra connu, c'est très très chouette, et ça a vraiment un but de faire... c'est un divertissement, véritablement, c'est comme aller voir un match de sport ou autre. Après, l'impro, il en existe plein, il existe des impros longues où les improvisateurs vont créer une histoire pendant une heure et demie d'un tenant. Il y a des formes très très courtes, il y a celle au cinéma où des films vont être totalement... filmer autour de comédiens qui vont improviser. C'est-à-dire on va leur donner les clés de départ en disant tu es tel personnage et toi tu es celui-ci, il va vous arriver ceci, on aimerait qu'il arrive ceci, on va filmer ça à tel endroit et ça à tel endroit, mais pour le reste du truc, je vais vous laisser improviser et je vais filmer. Et donc effectivement, ça demande quelques clés, donc d'en avoir en amont, de s'y exercer, parce que c'est quand même une forme pas naturelle, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui se prépare, mais il faut avoir peut-être des idées en amont. Et surtout, ça demande une énorme écoute avec ses partenaires. C'est-à-dire que la règle de base d'improvisation, c'est de jamais dire non. En fonction de ce que l'autre va nous dire en face, on est toujours obligé de l'accepter.
Et ne pas être déstabilisé non plus.
Voilà. Mais aussi, le but du jeu, quand on en fait beaucoup, c'est de déstabiliser l'autre. C'est-à-dire que c'est ce qui amène, on va dire, l'humour en ligne pour le spectateur. C'est de voir qu'on a des improvisateurs qui se retrouvent un peu sur le qui-vive et de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus fun à regarder en ligue, en match ou autre. Donc c'est... Puis c'est amusant, on peut jouer en improvisation, il n'y a pas de règles, on peut créer des mondes imaginaires fantastiques, on peut jouer des animaux, on peut jouer des objets, on peut raconter des histoires dramatiques, ça peut être une impro triste, ça peut être une impro touchante, comme des grandes histoires d'amour, des grandes épopées de science-fiction ou autre. Donc c'est un peu l'univers, on rend possible l'impossible, et c'est ça que je trouve fascinant. Et puis au théâtre, juste pour peut-être parler un peu de ça, l'improvisation peut amener aussi vraiment un terreau de préparation, d'écriture. Il y a beaucoup de comédiens, et je vais peut-être citer un comédien que j'aime énormément, d'ailleurs son frère était mon mentor d'improvisation, donc je salue Pierre de Breuer qui était mon professeur d'improvisation à l'école, et je voulais parler de François de Breuer qui est un humoriste que j'admire énormément, qui lui fait des seuls en scène, qu'il écrit sur base d'improvisation. Donc il se donne une trame narrative, et il se dit tiens je vais improviser, et il va jouer tous les personnages en improvisation, et puis sélectionner les meilleurs moments et en faire une trame qui n'est plus vraiment improvisée du coup, mais qu'il aura traversée grâce à l'improvisation, et il va jouer tous les personnages à lui tout seul. Et ça demande une maîtrise de jeu théâtral incroyable. C'est ce qu'on appelle la méthode Cobert, en référence à Philippe Cobert, qui est un immense acteur. Donc voilà.
Il nous reste un peu plus de 3 minutes, on va voir des choses. D'abord, voir de quoi rêvez-vous pour votre carrière, mais aussi une question technique, parce que c'est vraiment intéressant pour celui ou celle qui veut devenir acteur ou actrice. Vous avez un agent. Mm-hmm. C'est important pour un acteur d'avoir un agent ?
Alors ça aide véritablement. Je pense qu'il y a moyen de faire carrière sans, mais ça aide. Alors en Belgique, il faut savoir qu'il n'y a pas d'agent. Ça n'existe pas encore, c'est pas légal apparemment. Et donc les agents pour les francophones, en tout cas, sont en France. Un agent, pour expliquer peut-être pour les téléspectateurs à quoi ça sert, un agent, son rôle est de faire l'intermédiaire entre les comédiens qu'il représente et d'autre part les directeurs de casting et donc les productions. C'est-à-dire qu'un film, quand il est écrit, la production va chercher une distribution, un casting. Les directeurs de casting sont chargés, ils reçoivent ça, ils reçoivent une commande, on va dire, des productions, et ils vont faire passer des castings à toute une série de comédiens correspondant plus ou moins au rôle. Et les agents ont pour rôle de mettre des comédiens là-dessus. Donc là où un agent est vraiment utile, c'est qu'il va dénicher pour ses comédiens des rôles parfois inattendus ou auxquels on n'aurait pas accès par nous-mêmes. Parce qu'avoir accès à des gros castings, des grosses productions, je pense à Netflix, autres, c'est pas quelque chose qu'on trouve tous les jours en regardant sur les réseaux sociaux ou autres. Il y a bien moyen de trouver plein de castings comme ça. Hein. C'est pour ça que je dis qu'un agent ne fait pas non plus toute la carrière d'un comédien, parce qu'il y a des comédiens qui sont lancés vraiment de par eux-mêmes. Mais je pense que c'est nécessaire, effectivement, à certains stades de la carrière, d'avoir un agent afin de justement consolider nos relations professionnelles et avoir accès à de nouveaux projets.
Un conseil que vous donneriez à un jeune acteur, une jeune actrice ?
Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, et c'est un magnifique métier parce que ça nous permet d'être absolument tout ce que l'on souhaite, au plateau évidemment, c'est d'avoir, évidemment de travailler, ça c'est la base, c'est un métier où il faut beaucoup travailler, mais c'est d'être patient, étonnamment. C'est peut-être pas la première chose que les gens diront, mais moi c'est peut-être celui que je recommande le plus, c'est d'avoir énormément de patience. Il faut avoir foi en soi, continuer de travailler, pas vouloir tout de suite, et avec la patience et en affinant un peu son outil comme un musicien travaille son instrument, donc en travaillant sur son articulation, son corps, autre, en travaillant sur son relationnel et en diversifiant aussi notre jeu, je pense que ça portera toujours fruit. Donc il faut être patient parce que on est beaucoup aussi. Mais c'est un magnifique métier et puis c'est quand même, on va dire, on est un peu les représentants de la culture aujourd'hui. Je pense qu'on touche un peu à tout. Là, on fait beaucoup de liens avec la musique, l'opéra, autre. Donc je pense vraiment, soyez patient, ça pourra porter ses fruits. Je vous le souhaite en tout cas.
Carl Verviers, il me reste à vous remercier d'avoir partagé votre expérience, votre passion avec nos auditrices et auditeurs. Je sais, ce n'est pas une vie toujours facile. On vient de parler du statut des artistes, on ne saura pas en parler ici, mais on espère beaucoup parce qu'on a vécu la pandémie, qui a montré la précarité de ce métier et qu'il
fallait
vraiment, tenir bon malgré tout.
Oui.
Mais donc, tous mes voeux, tous les voeux de nos auditeurs et auditrices pour votre carrière.
Je vous remercie.
Et un tout grand merci d'avoir partagé votre expérience.
Avec grand plaisir. C'était un vrai plaisir. RCF.